Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans votre librairie francophone. Aujourd'hui, on évoque le 13 novembre 2015 dans la culture et la résistance avec Albert Camus de la philo et de la musique live. Albert Camus est à l'honneur aujourd'hui avec un vibrant hommage signé Abdal Malik. L'artiste raconte comment Camus a fait de lui un homme respectable. Décryptage et analyse dans la deuxième partie de l'émission. L'auteur belge Claire Heunen publie un court roman sur l'amitié, un récit qui interroge sur la force mais aussi la durée d'une grande amitié. Un livre qui a perturbé nos libraires. Il y a un an tout juste, donc, la musique et la liberté étaient la cible des minables barbares. En résistance et en hommage, nous parlerons des valeurs de la tolérance avec Roger-Paul Droit et nous avons invité un immense artiste sénégalais, grande star africaine. Il jouera un titre en acoustique dans nos studios. Baaba Mal est avec nous aujourd'hui pour un son du monde exceptionnel.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Cette émission est dédiée aux victimes du 13 novembre 2015. Quatre libraires sont évidemment en multiplex à travers la francophonie comme toujours. Les deux plus critiques, les plus durs, sans doute les plus virulents de la francophonie sont parmi nous. Jérémy Laniel est au Québec, libraire dans la librairie Carcajou à Rosemère. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous?
Oui, très bien.
Bon, vous avez de la concurrence avec Grégoire Courtois de la librairie Oblique à Auxerre en France. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Oui, oh, il est tout gentil.
Petite voix.
C'est
Jérémy le méchant désormais.
C'est vrai, c'est lui qui prend le relais. Ouais. Alors Jérémy, justement, nous serons avec vous la semaine prochaine au Salon du Livre de Montréal. Enregistrement en public, jeudi 17 novembre à 15h. Vous êtes tous les bienvenus, place Bonaventure. Et il va y avoir du très beau monde en plateau avec des invités surprises, vous le verrez. Et puis la semaine qui suivra Montréal, nous serons à Radio France Fête le Livre avec Tahar Benjelloun, Jean Ziegler, Nina Bouraoui. Et une surprise aussi, enregistrement là, vendredi 25 novembre à 15h au Studio 106. Invitation à retirer sur le site de Radio France, dans la limite des places disponibles. En Suisse, c'est le retour de Laura Sanchez de la librairie du Boulevard à Genève. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous, chère Laura?
Très très bien.
Bien? Bon. Bonjour Sophie Creuse.
Bonjour Emmanuel et bonjour à chacun d'entre vous.
Bonjour, vous êtes libraire à Waterloo, tout le monde vous dit bonjour, voilà, tous les invités vous disent bonjour. Libraire à Waterloo dans la librairie Graffiti. Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Abdal Malik.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Merveilleusement bien, Emmanuel.
Vous publiez un livre hommage à Albert Camus. Vous racontez l'importance de son œuvre qui a été déterminante pour vous sur le plan personnel, mais aussi sur le plan artistique. On commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote intime racontée par l'un de nos invités. Que voulez-vous transmettre? Qu'avez-vous choisi?
Alors, c'est peut-être pas l'histoire la plus drôle, mais disons que tous les artistes, enfin ceux qui font de la musique, leur rêve, c'est de signer en maison de disques. Et voilà que j'ai quel âge j'ai 19, 20 ans, enfin, il y a quelques années avec mon groupe de rap. Donc on signe en maison de disque et tout ça, c'est merveilleux. Et cette maison de disque, dont je tairai le nom, avait l'habitude d'accrocher en fait les photos de chacun. On rentre dans le bâtiment et il y a les photos des différents artistes.
Oui, oui, je vois très bien à quelle maison de disque c'est. Oui.
Bon. Donc on signe, il y a notre photo, c'est merveilleux et tout. Ouais. Et puis les choses se passent. Et les choses se passent, mais pas très bien en fait. Le disque ne se vend pas, c'est un peu difficile et tout ça. Et un matin, donc j'ai rendez-vous à la maison de disque. Donc je vais à la maison de disque, mais je vais un peu en avance. Disons qu'on a rendez-vous à 10h et je vais à 9h. Et j'arrive en fait, et arrivant à l'entrée, je vois les gens décrocher notre photo et la remplacer par une autre.
Oh là là. Et là, on va vous dire.
Et ensuite,
il
n'y
a plus de contrat.
Ensuite, je viens pour entrer, on me demande, vous désirez, on me demande si je suis un coursier ou si... Et en fait, c'est bizarre parce que c'était la même personne qu'habituellement je voyais.
Ouais.
Et cette fois-là, en fait, elle voulait pas me laisser, elle était pas sûre, en fait. Et on décrochait notre... Et c'est quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a vraiment bouleversé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me... Voilà. Mais en même temps, ça m'a rendu plus fort, c'est-à-dire les choses, voilà, les choses évoluent.
Alors vous évoquez rapidement ce passage d'ailleurs dans le livre, et vous dites que vous prenez l'attitude de Camus avec sa dignité.
Exactement.
Voilà, la
Exactement.
Dignité d'abord.
Exactement.
Abdal Malik est dans la librairie francophone cette semaine. Mmh. Et bonjour Claire Henen.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans la librairie francophone avec Miss. À ma place, paru aux éditions du Cherche Midi. Vous racontez une amitié particulière. Franck a été le meilleur ami de Lise pendant 15 ans. Et au moment où la maison familiale de Lise est en vente, c'est lui qui va l'acheter. Alors, il y a une double douleur. Celle de voir ses souvenirs s'éloigner avec cette vente, mais aussi celle de revoir un ami intime avec qui on s'est froissé. C'est quoi le pire ?
Le pire, c'est la perte de l'ami, évidemment.
Ouais.
Mais c'est d'autant plus compliqué, en effet, quand l'ami qui va choisir à un moment donné de mettre fin à l'amitié, au lieu de s'en aller comme il est de coutume quand deux êtres se séparent, va plutôt choisir de rester et de prendre place dans la vie de Lise et au final d'acheter sa maison
voilà.
d'enfance.
Et alors surtout qu'une maison de famille, quand on fait ses cartons, c'est une forme de deuil.
C'est déjà une forme de deuil en soi. Là. Une maison de famille, on ne veut pas savoir ce qu'elle est devenue après. Il y a quelque chose qui est l'ordre des souvenirs, il y a quelque chose... Et on ne veut surtout pas savoir qu'un autre qu'on connaît l'habite, je crois, parce que l'autre va se l'approprier. Autant on n'a pas envie de revenir dans une maison, de savoir ce qu'elle est devenue, autant parfois on aime pouvoir passer devant et se demander ce qu'elle a été et projeter ses souvenirs. Sauf quand on sait qui l'habite et comment l'autre va l'habiter... On ne peut plus avoir cette projection-là. On ne peut plus se nourrir justement de cette nostalgie et de la douceur de l'enfance qu'il a habité, que la maison
et
représente.
Et la distance, on n'a plus la même distance surtout, c'est ça?
Forcément.
Bon, on n'arrive pas à comprendre, Claire Henen, dans votre livre, pourquoi cet ami agit comme ça. Vous le décrivez un peu comme un pervers manipulateur et vous posez finalement une théorie sur l'amitié qui est assez trouble, non?
Sur l'amitié, non. Sur cette amitié-là, peut-être.
Oui, sur cette amitié.
L'amitié ne devrait jamais se terminer, déjà, à mon sens. Et ne devrait surtout jamais se terminer comme ça. Chacun devrait garder son histoire propre, que ce soit n'importe quelle forme d'amour, puisque l'amitié est une forme d'amour. En l'occurrence, là, il s'agit en effet d'un cas particulier, d'un ami qui a choisi de ne pas s'en aller et qui a pris la place de quelqu'un d'autre.
Oui, mais ça, c'est normal, puisque vous dites effectivement que l'amitié devrait durer toujours. Il est logique, cet homme-là.
Oui, sauf qu'il a choisi.
Il s'accroche.
Sauf qu'il a choisi de mettre. Oui, il s'accroche très certainement, mais tout en ayant choisi de mettre fin à l'amitié.
Oui, oui.
Donc il y a une ambiguïté qui est trouble.
On va laisser la parole au libraire. On va voir ce qu'ils ont pensé de votre livre, Claire. Laura, pour la Suisse, vous voulez intervenir.
Bah oui, le thème de ce livre est très intéressant et profond. C'est vrai que l'amitié, c'est un lien très beau qui peut soulever des montagnes. Mais moi, en fait, je suis très mitigée. Pour moi, ça manque de matière, d'épaisseur. Les sujets sont effleurés, les évocations sont trop légères et les personnages ont été difficiles à cerner à mes yeux. Donc j'ai beau aimer les romans courts et ramassés, mais là, à mon sens, il aurait quand même fallu un peu plus de pages.
Les personnages vous ont gêné. Et Jérémy, au Canada d'ailleurs, ce sont les personnages qui vous ont attiré aussi, qui ont attiré votre attention.
Oui, les personnages, moi, je les ai trouvés remplis de promesses qui installent au fil de l'histoire quand même des tensions dans le silence que j'ai trouvé vraiment intéressant. Mais où est-ce que je suis quand même d'accord avec ma collègue, c'est qu'à l'habitude, moi, j'ai l'habitude de critiquer les romans en disant qu'ils sont pas assez resserrés. Ici, j'ai l'impression que le roman nous laisse un peu sur notre faim, dans le doute, dans le questionnement, ce qui est pas toujours une mauvaise chose. Mais je pense quand même qu'on aurait pu pousser le tout un petit peu plus loin.
Bon, en tout cas, c'est un roman court, resserré. Moi, je l'ai trouvé très agréable, Claire Henen, parce qu'il y a comme ça une force qui se dégage en une centaine de pages. Et finalement, c'est presque une grande nouvelle, plus qu'un roman, hein, c'est un peu ça. On va écouter la BO du roman. On vous a demandé, Claire Henen, quelle est la musique qui illustrerait le mieux votre livre, la bande originale du livre, comme au cinéma. Et vous avez choisi Georges Brassens avec Les Copains d'abord. On écoute un extrait et vous nous expliquez.
C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile, ils l'avaient pas lu. Mais ils s'aimaient, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord.
Pourquoi ce titre de Georges Brassens, Claire Henen ?
Parce que l'amitié, ça devrait toujours être ça. En parlant de la fin d'une amitié, j'avais aussi envie de parler de l'amitié. Et de dire que même si l'amitié se termine, la manière dont elle a nourri chacun... reste quelque chose de profondément présent et va nous bouleverser, va nous rendre autres et va nous nourrir de quelque chose de dense, d'heureux, de généreux. Et ouais, l'amitié, ça devrait toujours être ça.
On dit que l'amour passionnel dure 3 ans. Et dans votre roman, c'est l'amitié, mais qui dure 15 ans. L'amitié dure 15 ans ? La vraie amitié, vous pensez ?
Moi, je continue à penser que l'amitié dure une vie.
D'accord. Vous écrivez aussi « Je pensais que l'amitié durait toute une vie, qu'il y avait quelque chose de fondateur, qui liait comme une greffe, pas seulement avec Franck, quelque chose de plus fort que la famille, de plus fort que l'amour. » Mais l'amitié, c'est de l'amour aussi.
C'est une forme d'amour, bien évidemment. Et c'est précisément pour ça que la fin d'une amitié était si compliquée à vivre.
C'est très
pour
dur
la
à vivre, ouais. C'est horrible. Ouais, c'est vrai. Deux autres libraires ont lu votre livre. La France ou la Belgique, vous préférez qui ?
Allez, la France, la en invité.
C'est pas le plus facile. Hein. Vous êtes sûr ? Grégoire
oui.
Courtois.
Il faudra bien y passer.
Allez-y, Grégoire.
Non, mais
soyez gentil.
Alors, non, je suis assez gentil parce que mon avis, il est purement subjectif pour le coup. Moi, je trouve que c'est un roman qui n'est pas pour moi. Alors, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, bien au contraire, parce que je reconnais parfaitement toutes les qualités d'écriture. Je trouve qu'il y a une grande maîtrise dans l'écriture. Je trouve, moi, c'est le sujet qui m'a dérangé parce que c'est des choses sentimentales avec une histoire d'amitié, vous en parlez beaucoup, c'est voilà, mais je pense que c'est pas mon truc. Mais par contre, il y a des qualités littéraires exceptionnelles. Je pense qu'il peut tout à fait trouver son public en librairie sans aucun problème.
Vous n'avez pas de meilleur ami, vous ?
Non, bah non.
Non. Voilà. Tiens, on va y revenir. On va parler de cette notion de meilleur ami. Sophie Creuse, en Belgique.
Moi, je suis d'accord avec Laura et Jérémy. En fait, j'ai l'impression que ce livre reste encore à écrire. Alors, je ne sais pas si ça tient à votre personnage ou à l'écriture, mais cette fille m'a agacée, en fait. On a envie de la secouer et de lui dire que la vie n'est pas binaire, comme elle a l'air de le penser. Et puis, du coup, sa plainte m'a paru vaine, ténue, égotique. Bon, c'est vrai, elle est extérieure à sa vie, mais du coup, malheureusement, ben, moi, je suis restée totalement extérieure à la sienne.
Oui, c'est vrai qu'elle est un peu énervante. D'ailleurs, elle ne correspond pas du tout à votre personnalité, Claire. Vous n'avez pas l'air du tout comme ça. Par rapport au meilleur ami, elle dit d'ailleurs qu'on perd le sens du meilleur ami à l'âge adulte. Ce sont des mots que l'on n'utilise plus vraiment après l'enfance.
Mais c'est une question de terminologie, mais c'est vrai qu'on ne dit plus c'est mon meilleur ami.
Ah bon ?
Bon. Vous présentez vos copains, votre meilleur ami, en disant c'est mon meilleur ami ?
Bah oui.
Ah ouais ?
Pas Grégoire, mais. Abdal Malik, non ?
Moi, j'ai pas d'amis, j'ai que des frères. Non, c'est vrai. Ouais.
C'est-à-dire, j'ai pas. Vous êtes passé au stade supérieur.
Oui. C'est... Mais en même temps, le fait de dire qu'une amitié, ça devrait durer tout le temps, je suis vraiment d'accord. Et c'est vrai que du coup, quand il y a rupture, c'est horrible.
Mais il y a une notion très intéressante d'ailleurs, Claire Hunen, parce que vous dites on peut avoir la femme de sa vie, l'homme de sa vie, et on a l'ami de sa vie aussi.
Ah ouais, je crois vraiment qui est celui qu'on appelait son meilleur ami quand on était plus jeune. Et je crois qu'on ne peut avoir qu'un seul meilleur ami, enfin qu'après, le terme devient galvaudé justement, que c'est un terme unique. Précisément.
Roger Paul-Droit nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Roger Paul-Droit.
Bonjour.
Vous, le philosophe, on parlera de la tolérance tout à l'heure. Le meilleur ami, c'est une façon galvaudée de présenter les amis quand on a passé l'âge de l'enfance ?
Non, je crois pas. Je crois qu'il y a un usage enfantin du meilleur ami. Oui. Mais on peut continuer, je pense, adulte, à avoir un ou même plusieurs meilleurs amis. Oui, c'est-à-dire des proches, des gens avec qui on... Et là... Bien sûr, je comprends l'idée de la déception, de la douleur, de ça devrait exister toujours, mais je crois aussi qu'il n'est pas impossible de penser qu'il y a des amitiés qui correspondent à des moments de vie et que, de même que les amours, ça peut se faner et d'autres naissent, quoi.
Claire Hunen, un ami, c'est l'évidence, comme vous le décrivez dans le livre, l'évidence avec la confiance absolue et immédiate.
Alors c'est l'évidence, mais c'est pas immédiat. Je crois qu'il faut des années pour devenir ami. Je crois qu'on peut tomber amoureux en quelques heures.
On se reconnaît parfois.
On se reconnaît parfois, mais ça fait pas de l'autre un ami. Je crois que l'amitié, au contraire, demande un entretien, demande une découverte pour acquérir une confiance. Le meilleur ami, c'est celui en qui on peut avoir une confiance inconditionnelle. Et ça n'arrive pas comme ça subitement. Ça demande de l'apprentissage, je crois.
Voilà. Message passé aux meilleurs amis respectifs de chacun. Hein, soyez intègres, soyez des personnes de confiance. Merci beaucoup Claire Hunen.
Merci.
À ma place est paru aux éditions du Cherche Midi. À suivre, Abdal Malik et un hommage à Albert Camus. Voici le nouveau titre événement de Véronique Sanson. Merci à vous d'écouter la librairie francophone.
quand j'avais le goût des étincelles, que j'étais belle et puis belle. Si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants. Tous les gens qui ont tué mon innocence et mon corps qui a porté ma souffrance, ça m'emmène du rire aux larmes, ça m'empêche de prendre les armes encore. Une mise à mort dans un corps à corps. Je pensais pas pouvoir le faire sans avoir appelé ma mère d'abord. Et je l'appelle encore. À genoux et entouré de fous, contre tout fallait rester debout. Moi j'aurais pu fuir le combat, pas trahir les autres encore une fois. Pas de cinéma, pas saison de lave. J'avais faim de faire la guerre sans pouvoir appeler ma mère d'abord. Mais je l'appelle encore. Et je l'appelle encore. Silence à Mora, je suis pas vraiment normal. Pour sortir des flammes sans plus jamais brûler mon âme. Je pouvais voir les hirondelles, le temps d'un vent et des ombrelles. Y a un goût amer qui reste longtemps parmi mes amis, mes amours et mes amants. Quand j'avais le goût des étincelles, quand j'étais belle et puis rebelle. Si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants.
Le nouveau titre de Véronique Sanson et je l'appelle encore sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires. Coup de gueule ou coup de cœur, ils sont sévères cette année, c'est le principe cette saison. On part en Suisse avec Laura Sanchez. Coup de gueule ou coup de cœur, Laura ?
Eh bien, Emmanuel a un gros coup de gueule sur Tintin, figurez-vous.
Ah, sur Tintin, oui.
Tintin. Alors oui, c'est un personnage mythique, son créateur l'est tout autant. Mais voilà, il y a une exposition au Grand Palais, donc c'est à Paris.
Oui.
Et nous, là, les libraires francophones du monde entier, nous voilà inondés de livres sur le sujet. Est-ce qu'il y avait autant de choses à apprendre sur Tintin, vous pensez ? Moi, je ne crois pas. Alors, il y a un dictionnaire amoureux, un Découverte Gallimard hors série, une revue d'Ada, un livre de Michel Serres et une Xème réédition de l'intégrale chez Casterman. Alors, tous ces livres pris... Oui, sans doute. C'est ce que je crois, c'est que tous ces livres pris les uns indépendamment des autres sont sûrement de grande qualité, mais tout ça d'un coup, moi, ça me donne la nausée.
Vous avez l'overdose, c'est ça ?
Oui.
Michel Serres, qui était dans la librairie francophone pour Mon ami Hergé. Hein, voilà, vous pouvez la réécouter d'ailleurs en podcast ou en balado-diffusion. Bon, bah, très bien, c'est noté, Laura. Merci. Dans la catégorie des romans, on part en France avec Grégoire Courtois qui fait le gentil cette fois.
Mais ouais, très gentil avec un roman que j'ai trouvé vraiment splendide. On en a très peu parlé, alors profitez-en. Il est encore sur les tables des librairies. Il s'appelle Le bon fils de Denis Michaelis. Et ça raconte une année scolaire d'un jeune homme qui est en première. C'est une histoire très intrigante. langue très troublante. Alors, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. C'est une langue qui est vraiment très, très étrange. C'est pas une langue d'adolescent, mais c'est pas une langue littéraire non plus. On est vraiment entre les deux. Il y a des personnages très énigmatiques, tout ça pour raconter le trouble de cette période de nos vies où, à un moment donné, tout bascule et on est obligé de rentrer dans un moule où on devient tous le bon fils. C'est un très, ouais. très bon roman, très court, très ramassé, mais qui va vous faire réfléchir très longtemps.
Avec un meilleur ami ou pas?
Il y a un ami très étrange, effectivement, ouais, qui arrive là-dedans.
Le bon fils, c'est aux éditions Noir sur Blanc. Merci Grégoire.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Abdal Malik est dans la librairie pour Camus, L'art de la révolte, qui est sorti cette semaine aux éditions Fayard. Alors Malik, on apprend dans votre livre, très inspiré d'un spectacle d'ailleurs que vous avez monté en 2013, que vous avez relevé des points communs entre vous deux, issus d'un milieu pauvre, un père disparu comme Camus, un frère aîné très proche, et une maladie qui vous cloue à l'hôpital pendant un an, comme Camus, lorsqu'il est atteint de tuberculose.
Oui.
Qu'est-ce qui vous est arrivé à ce moment-là?
Ben, on savait pas trop, en fait. Et ils pensaient que c'était une méningite ou quelque chose comme ça. Donc, je suis resté en observation avec mon frère également, même si je précise pas. Mais je suis resté un an à l'hôpital et ça a été quelque chose d'assez, à l'hôpital civil à Strasbourg. Et ça a été une expérience très, très particulière. Et c'est vrai, parler de ce rapport, entre guillemets, miroir avec Camus. En fait, il faut comprendre que moi, j'ai vécu Camus comme, et je vis Camus. Comme un grand frère, comme un grand de la cité, en fait. Et tous ces points qu'on avait en commun, c'était quelque chose qui me faisait dire, finalement, c'était comme une sorte de piste, de chemin. J'avais comme ça des velléités, je voulais être artiste. Et c'est comme si, en lisant Camus, et précisément L'envers et l'endroit, les 20, 30 premières pages qu'il a écrites 20 ans après, justement, la préface.
En préface, en préface. Que l'on retrouve d'ailleurs dans la collection de la Pléiade, ouais. où on a effectivement ce texte.
Oui. C'est comme s'il me disait, ben... Tu veux être artiste, petit frère, et ben voilà ce que tu dois faire.
Alors vous le découvrez très jeune, hein, à l'âge de 12 ans, dans la cité de Neuhof, à Strasbourg, ouais. bien avant d'être à l'hôpital. Hein, vous lisez Camus, en fait, même si à l'hôpital, c'est vrai que c'est là qu'il se révèle, parce que vous vous posez des questions sur le sens de la vie, sur la mort, parce que vous craignez de perdre la vie vraiment à ce moment-là. Et il vous soutient, enfin son œuvre vous soutient vraiment.
Ouais, totalement. Mais je sais pas si j'avais conscience de la gravité de ce que j'étais en train de vivre, réellement. J'en ai parlé beaucoup après avec ma mère. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant, j'ai vécu ce sentiment de solitude et je me suis senti proche de Camus parce que Camus décrivait dans ses ouvrages, ici et là, décrivait cet état-là. Et voilà quelqu'un qui, un gars de chez nous, qui vient d'un endroit qui s'appelle Bellecour, qui est l'équivalent d'une cité chez nous et qui va devenir prix Nobel. Il y a quelque chose qui permet de se construire, en tout cas qui m'a permis de me construire.
Moi, j'ai lu des livres, une vie à assembler. Le savoir est une arme, c'est bien ce qu'il me semblait. Albert Camus, donc, devenu un grand frère. Comme les grands de la cité que je voyais de la fenêtre de ma tour, le Neuhof était devenu Bellecour. C'était le soir de la nouvelle année et il faisait déjà jour. La nuit flambait de feux d'artifice et de voitures torches quand j'ai lu Albert Camus.
À cette époque, Abdel Malik, vous dites être une petite frappe. Voleur à la tire, dealer. Vous êtes plutôt un personnage d'un roman de Camus plutôt qu'un alter ego.
J'ai pas réfléchi en termes d'alter ego. C'est vraiment, encore une fois, je répète, c'est Camus, c'était un grand frère. C'est comme si c'était quelqu'un... Enfin, dans une de ses nouvelles, par exemple, il parle du fait que lorsque, à Bellecour, il voyait quelqu'un qui se faisait attraper par la police, il dit ce type, ça pouvait être n'importe qui, ça pouvait être un meurtrier, ça pouvait être quelqu'un d'extrêmement négatif. Mais lui et les siens, quand il le voyait, il disait « Celui-ci est un pirate ». Alors, il était de son côté.
Ouais.
Et ben nous, c'était la même chose. C'est-à-dire, quand quelqu'un se faisait arrêter, c'était l'un des nôtres. Il y a nous et puis il y a le reste du monde. Et le fait de parler de ces gens comme son peuple, moi, j'ai toujours vécu les choses de cette manière dans la cité. Et du coup, j'ai vécu Camus comme... Camus se définit comme un auteur, un écrivain français d'Algérie. Et moi, je voulais être... un auteur, un écrivain français de cité. C'est comme ça que je vivais les choses.
Mais alors c'est comme ça que vous êtes sorti de la délinquance. C'est vraiment en lisant Camus.
En lisant Camus.
Vraiment ça.
Ouais, véritablement.
Oui ou non? Enfin, clairement.
Et d'ailleurs, je le dis clairement. Parce que on peut pas lire Camus et être incohérent, en fait. Il a cette phrase où il dit en substance, il dit on peut pas lutter pour la justice en commettant une autre injustice. C'est, ça fonctionne pas comme ça, en fait.
Et puis un jour, votre frère aîné tombe sur votre journal intime, rose avec un cadenas doré, le dessin d'une ballerine sur le journal intime.
C'est vrai.
Vous le racontez. Et puis il vous propose de rejoindre le groupe de rap qu'il a créé. Alors cela vous aide à devenir quelqu'un de respectable. Mais plus encore, vous vous posez la question de la place de l'artiste et de la création dans la société. Là encore, Camus vous guide ?
Totalement. Après, quelqu'un de respectable, c'est vous qui le dites, mais ce qui est sûr...
Bah, vous le dites aussi dans le livre.
Enfin, pas le terme respectable.
L'idée, non, bon,
l'idée, c'était de dire que, en gros, un individu, n'importe qui, se construit sur des modèles. Autour de moi, quand je regardais dans la fenêtre de ma, dans ma tour, de ma cité, eh ben, il y avait des braqueurs, des voleurs de voitures, des dealers, et je voulais être comme eux. Mais il se trouve qu'en même temps, je rencontre Camus. Mmh. Et Camus est l'un d'entre eux. Donc finalement, Camus est devenu un modèle et m'a permis, justement. Et c'est en ce sens-là, c'est plus de ça que je parle. Et donc voilà. Et donc il y a cette idée de dire que on a besoin de référents. On a besoin de modèles pour devenir enfin qui on doit devenir.
Et devenir un artiste. Parce que c'est vrai que l'art est important pour Camus.
Ah, totalement. Ouais. C'était comme une sorte de mode d'emploi pour l'artiste que j'ambitionnais d'être, ou j'avais la prétention de devenir.
Alors aujourd'hui, quand j'entends des journalistes me dire que parler de paix et d'amour, ça ne sert à rien si ce n'est divertir, je pense à ces mecs et ces meufs dont l'ultime demeure est sous une croix ou tournée vers la Mecque. Ces petits mecs et ces petites meufs qu'on ne considérera jamais comme des héros ou même comme de simples victimes de guerre. Moi, je ne vous oublie pas. Et en votre mémoire éternelle, je ferai tout pour faire la paix avec moi-même et avec les autres aussi. Pour un monde meilleur. Vive la France arc-en-ciel, unie et débarrassée de toutes ses peurs. Soldats de plomb, soldats de plomb. Donne-moi la main, donne-moi la main.
Ceux qui aiment le mystère des cœurs et la vérité cachée des êtres, c'est ici qu'ils doivent venir, sur cette scène, où leur curiosité insatiable risque au moins d'être en partie comblée.
La scène, ça vous a comblé, Abdelmalik ?
Je ne sais pas si c'est la scène qui m'a comblé, ou si finalement tous les médiums finalement qui me permettent d'être en lien avec les autres, de partager avec les autres, c'est plus ça. Et du coup, il y a la scène, la littérature, la musique, le cinéma.
On va laisser la parole à nos libraires. Trois libraires ont lu votre livre, Abdelmalik. France, Suisse ou Belgique, par qui préférez-vous commencer ?
On va dire la Belgique.
La Belgique ? Allez, c'est bien la Belgique.
Ah, Sophie. Chic alors.
Sophie Creuse.
Mais écoutez, moi j'aime déjà la manière dont vous prononcez Camus, le respect qui passe dans cette articulation. Puis j'ai eu la chance de voir votre spectacle et j'ai adoré cette manière de ramener justement Camus ici et maintenant, à travers vous, par le verbe, par le corps, par le souffle. Et on retrouve cette générosité-là dans votre livre. Mais, un petit mais, j'aurais aimé un peu plus de swing, que le livre se resserre autour du dialogue Camus et peut-être moins d'analyse littéraire, que je trouve épatante, mais elle aurait plus sa place, je crois, dans une réédition des œuvres de Camus à destination des jeunes, à qui vous parlez si bien, en conscience et puis heureusement sans moralisme.
Grégoire, pour la France, qu'en pensez-vous ?
Moi, j'ai un problème avec le projet du livre, en fait, que je n'ai pas trouvé très clair. En fait.
Ouais,
pour
ça
être...
commence.
Non, mais pour être clair...
Je c'est peux que... quitter le studio deux minutes ?
Non, mais le titre m'a vraiment induit en erreur, puisque ça s'appelle Camus, l'art de la révolte. Moi, je m'attends à un essai sur Camus et j'ai quand même beaucoup d'Abdelmalik et assez peu de Camus, finalement, je trouve, proportionnellement. Notamment, il y a des photos de vous, il y a des textes de vous énormément. Et l'analyse dont parle Sophie, je la trouve quand même resserrée un petit peu sur le dernier tiers, mais il n'y a quand même pas énormément d'analyse de Camus en lui-même. Donc, moi, c'est ça qui m'a vraiment posé problème parce que je l'appréhendais comme une espèce d'hommage. C'est peut-être le titre qui m'a induit en erreur, mais j'ai trouvé, du coup, je suis un lecteur un peu gêné et je trouve qu'on a un auteur ici qui manque un petit peu d'humilité face à ce personnage.
Avant de réagir, Abdelmalik, Laura, pour la Suisse, vous n'êtes pas du tout d'accord avec Grégoire.
Bon, alors moi, je vais faire la majorette de service. tout d'abord, non. Moi, je dois vous dire, Abdelmalik, que j'aime beaucoup votre travail depuis très longtemps.
Merci
je
beaucoup.
Trouve que vous êtes une personnalité qui apporte beaucoup au trouble ambiant. Parce que vous vous réclamez de votre identité plurielle, c'est fort, c'est intelligent et ça sonne toujours juste. Et pour parler de ce livre-là, ben c'est vrai qu'il est très atypique. Il y a cet hommage à Camus, mais aussi l'écriture rap. Moi, ça m'a désarçonné, mais au final, ça m'a plu. Et c'est vrai qu'après avoir lu votre livre, ben, on n'a qu'une chose à faire. faire, c'est lire ou relire Camus.
Oui, c'est vrai. De se replonger dans l'œuvre de Camus, c'est tout à fait vrai. C'est ce que j'ai fait avec la Pléiade, d'ailleurs, avec notamment L'envers et l'endroit.
C'est ça l'idée. En fait, je pense que ce qui vous a... Enfin, le mauvais point de vue, c'est qu'il s'agissait de comprendre la relation. Comment la relation de Camus et moi, finalement. Comment il y a... Si crise il y a, c'est vraiment une crise de référence, une crise d'exemple, une crise de modèle. Et comment une grande figure comme Camus, finalement, fait en sorte que je devienne l'artiste que je suis en chemin, en fait. Et c'est ça l'idée, c'est de dire vraiment le fait de parler de l'impact d'une référence, de l'impact d'un modèle, de quelqu'un qu'on va vivre, pas comme une figure littéraire, mais comme un être de chair et de sang. Et c'est de ça que je parle. Et si je pense que si on comprend pas ça, eh ben, effectivement, on peut avoir cette analyse-là que bon, c'est.
Après, on réfléchit parce que c'est vrai que vous nous interrogez finalement. Il y a des passages un peu troublants. Moi, il y en a un que j'ai relevé concernant justement la scène avec votre groupe de rap à l'époque qui motive votre révolte. Hein. Vous le dites, vous parlez même de la haine que vous éprouvez à l'époque. Vous écrivez, j'avais énormément de choses à dire, j'avais la haine.
Ouais.
Et pourtant, pour Camus. L'homme révolté n'est pas l'homme du ressentiment.
Bien sûr.
Il n'est ni dans la haine, ni dans le mépris.
Totalement. C'est pour ça que ma haine a évolué. Grâce à Camus, justement. Mmh. C'est de faire quelque chose de cette violence. C'est de faire quelque chose de cette haine. C'est de faire quelque chose de cette injustice. Et c'est en ce sens-là où, quand vous m'avez dit tout à l'heure de façon presque impérieuse, en disant, alors, c'est par Camus ou pas que, finalement, vous arrêtez la délinquance? Mais en fait...
Ouais. Bah je vous ai demandé oui ou non.
Oui ou non, oui ou non. Oui. Mais bon, je le dis un peu. Mais c'était oui ou non.
Oui, c'est ça.
C'était ça, donc impérieuse.
C'était un peu directif.
Mais ouais, un peu. Mais il n'y a pas de souci. Je le prends pas mal du tout. Mais l'idée.
J'espère.
Bien sûr. Mais l'idée, c'était vraiment de dire que voilà quelqu'un qui est en chemin. Ouais. C'est-à-dire, qui se découvre, qui apprend la vie. Et il y a une étoile, il y a un chemin. C'est de l'ordre d'un cheminement.
Et
c'est de ça que j'ai voulu parler.
Camus, l'art de la révolte d'Abdelmalik, c'est chez Fayard. Merci beaucoup, vous restez bien sûr avec nous pour la troisième partie. Hommage en ce week-end du 13 novembre. On termine avec un extrait de votre spectacle, justement, l'art et la révolte, autour de Camus, monstrueux, ce titre qui évoque la violence.
La violence est têtue, la violence est tordue. La violence est une chute qui normalise la défaite morale. Des voix Nietzsche et l'au-delà du bien et du mal. La violence, c'est le coup froid d'un canon scié dans la bouche qui fait se faire dessus quand la peur vous enfourche. La violence ne sait comprendre, ne fait que prendre, tronçonne comme un accident qui démembre. La violence est le confident fielleux de la puissance. Tu mens et attises les peurs pour gagner la confiance. C'est violent.
La violence, on va forcément en parler dans un instant avec un hommage aux tragiques événements du 13 novembre 2015. L'hommage et la résistance par la culture et la question de la tolérance. La tolérance est-elle encore possible aujourd'hui? Le philosophe Roger-Paul Droit est avec nous. La résistance par la musique, c'est avec Baaba Maal qui est installé dans notre studio et que l'on rejoint dans deux minutes. Dans cette plus grande librairie du monde, on file tout de suite au Canada avec Jérémy Laniel dans le rayon des bandes dessinées. Coup de gueule ou coup de cœur, Jérémy?
Coup de cœur, Emmanuel, pour Louis parmi les spectres à la pastèque. C'est le duo Isabelle Arsenault et Fanny Britt qui nous avaient servi Jeanne Le Renard et moi. Eh bien, les voilà de retour avec un titre tout aussi beau, tout aussi incroyable. C'est un roman graphique près du conte qui aborde la question de l'homme en devenir, hein, qui va être tant le garçon ou le fils, son évolution dans le milieu familial, ses premières amours. Et encore une fois, là, la maîtrise, la justesse, la beauté du texte de Fanny Britt qui vaut à lui seul le détour. Mmh. C'est transcendé par les illustrations d'une pertinence et d'une singularité estomacante que sont ceux d'Isabelle Arsenault. C'est d'une beauté à vous arracher le cœur, Emmanuel. C'est l'un des incontournables à rentrer.
Et c'est aux éditions La Pastèque. Merci, Jérémy. Puisqu'on est dans le rayon des bandes dessinées, je vais m'immiscer dans cette chronique avec un coup de gueule. Delcourt a publié une BD, 13 novembre, reconstitution d'un attentat, qui raconte en détail, avec des dessins horribles, le massacre du Bataclan et des terrasses de café. On n'avait vraiment pas besoin de ce réalisme de supermarché pour mesurer l'horreur. C'est un livre complètement indécent et carrément inutile. Voilà qui est fait dans le rayon des essais Cap sur la Belgique avec Sophie Creuse.
Oui, alors mon coup de cœur cette semaine va au plus chinois des académiciens français. Je parle de François Cheng pour son livre « De l'âme » qui paraît chez Albin Michel. Alors sous forme de lettres d'une finesse absolue avec une correspondante elle aussi de grande qualité, il s'entretient donc de l'âme. Et ce n'est pas un livre édifiant comme il y en a trop, c'est un livre de poète et de peintre. L'âme, c'est ce qui échappe, qu'on devine, mais qui ne peut être nommé, et que François Cheng a le grand talent de nous donner à voir, et puis surtout la grande sagesse de ne pas nommer.
François Cheng, le nouveau livre de François Cheng aux éditions Albin Michel. La librairie francophone avec Claire Heunen, Abdal Malik, Roger Paul Droit et Bahab Amal. Bonjour Bahab Amal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis, très honorés. Vous avez accepté de rencontrer aujourd'hui Roger Paul Droit et Abdal Malik pour cette séquence hommage.
Salut.
Que vous saluez, qui sont en face de vous. Le 13 novembre 2015, de minables barbares nommés terroristes ciblaient la musique et la liberté dans les rues de Paris. Vous êtes un artiste très engagé au Sénégal, immense star en Afrique. Vous portez beaucoup de valeurs humanistes. Vous croisez comme cela les langues et les cultures dans votre musique. Vous avez collaboré avec des artistes américains, européens, comme Peter Gabriel. Avant d'interpréter une chanson issue de votre dernier album, quel est votre message en ce week-end un peu particulier?
Je pense que la culture peut quand même prétendre de ramener les êtres humains à l'ordre. Et je viens de sortir un documentaire où je dis que l'Afrique est une terre de culture à la prétention de pouvoir revenir et de démontrer à la face du monde qu'il y a encore une humanité qui est là, qu'il faut mettre en avant pour que les gens puissent quand même se saisir de la tolérance pour aller vivre ensemble, pour échanger, pour apprendre à se connaître. Et je pense que c'est là le problème. C'est parce que les gens n'apprennent plus à se connaître. C'est pourquoi il y a toute cette violence entre les êtres humains.
Ouais. Alors c'est vrai que dans votre musique, on retrouve très souvent les racines, la paix et le métissage. Tout ça mélangé. C'est un peu le triptyque de votre art, ça.
Mais bien sûr, sans la cohésion sociale, sans la paix, je pense que si nous voulons léguer quelque chose aux générations futures, il va falloir qu'on s'attelle quand même à leur apprendre à vivre en harmonie entre elles. Et ça, nous avons toutes les possibilités de le faire, mais on est très souvent très aveuglés par tout ce qui nous entoure ou bien nos propres désirs. Mais je pense que c'est un devoir de tout un chacun.
Bon, je vais vous laisser vous installer là, juste derrière. On vous a installé un tabouret noir avec un petit ampli, deux micros, une guitare acoustique branchée aussi. Vous allez interpréter un titre de votre nouvel album nommé The Traveler, dans une version acoustique inédite pour la librairie francophone Kala Adjo. C'est le titre et vous allez voir, vous allez entendre, on va retrouver les valeurs de paix, de métissage, signé Bahab Amal.
Kalaju Calayo, Calayo, Ablay, 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 Eliman, Ablay, Eliman, Ablay monene Mariam Jaiba Debo pulo slama lema an Ngere bisaku Jehova non gorkonda nonda a Wi tandele nyon gol no tuono manda nya jam kala
Baba Mal en acoustique dans les studios de la librairie francophone avec Kala Joe sur ici Radio Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. Merci beaucoup Baba Mal. Installez-vous, je vous en prie.
Merci beaucoup.
À ce micro en plateau, magnifique chanson.
Kala Joe, c'est l'aventurier.
Ouais.
Et ça rejoint un peu le titre de cet album de Travel, Le Voyageur. Voyager, c'est une des plus merveilleuse leçon de vie parce que quand on voyage, on apprend. Ça devait être un plaisir comme ça l'était avant, mais maintenant ce n'est plus avec plaisir. Les gens sont forcés de partir. Tout ce qui arrive à tous ces enfants, ces femmes et tout, et cette jeunesse, mais on ne peut pas les interdire d'apprendre quand on voyage aussi.
Voilà, merci en tout cas pour ce cadeau magnifique, voilà, qui sera résonné partout dans le monde. On va parler d'ailleurs de tolérance avec Roger Paul Droit, avec vous, Baba Mal, avec Abdal Malik, avec Léa Runen, avec tous ceux qui veulent intervenir sur ce plateau.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Alors Roger Paul Droit, vous publiez un petit livre aux éditions du Seuil, La tolérance expliquée à tous, un dialogue entre vous et un interlocuteur imaginaire qui vous relance sur ce sujet, qui vous interrompt, qui essaye comme nous d'ailleurs de comprendre l'importance de la tolérance. Je vais être direct comme votre interlocuteur. Peut-on encore prôner la tolérance aujourd'hui avec le terrorisme et la violence ?
Absolument oui, parce que il faut distinguer, je crois, deux choses. Le fait qu'être tolérant ne signifie évidemment pas tout tolérer. Au contraire, il n'y a de tolérance que par un refus de l'intolérable. Et l'intolérable, c'est évidemment pas simplement le meurtre, mais c'est le massacre, c'est la barbarie, c'est la torture, c'est l'indignité, c'est l'inhumanité. Tout ça, c'est intolérable. Et il faut évidemment se battre contre ceux qui veulent détruire la liberté, non seulement des corps humains, mais la liberté d'expression, la liberté de culte, l'égalité des hommes et des femmes. Mais je crois que nous devons garder en tête cette idée que, finalement, la tolérance, c'est toujours réciproque. Autrement dit, même si c'est difficile à mettre en œuvre, c'est simple à formuler, il me semble qu'il faut être tolérant avec tous les gens tolérants, quel qu'il soit, et il faut savoir être intolérant envers tous ceux qui, non seulement sont fanatiques, mais aussi ont des comportements intolérables.
Voilà, c'est vrai que vous expliquez que l'intolérable, c'est nécessaire à la tolérance. Et vous écrivez, pour agir en fanatique, en bourreau, en barbare, il faut avoir transformé l'intolérable en tolérable.
Absolument, c'est-à-dire que, on parle beaucoup de barbares. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est des gens qui, bien évidemment, comme tous les êtres humains, ont aussi des émotions, sont bouleversés devant des enfants, etc. Pour pouvoir tuer un enfant de sang-froid, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir, d'une certaine manière, vitrifié, gelé en soi-même quelque chose de l'humanité, au nom de quoi ? D'une vérité supérieure, au nom d'une sorte de mission qui, finalement, rend inhumain pour parvenir à autre chose. Mais là, il y a quelque chose qui est le signe même du fanatisme et finalement d'une forme de barbarie qui n'a rien à voir avec le fait d'être cultivé ou non cultivé. Ça n'a rien à voir avec les croyances, ça n'a rien à voir avec l'ethnie. C'est l'idée d'être animé d'une mission qui peut rendre véritablement inhumain pour l'accomplir.
Bah mal, vous êtes d'accord avec cette perception?
Complètement d'accord avec lui. Je pense que l'être humain a des qualités qui font que, au finish, on se rend compte que ça, c'est un être humain. Mais quand on passe à cette vitesse supérieure pour faire souffrir, mais pas seulement celui qu'on tue, mais aussi ceux qui sont témoins, par exemple, de ces barbaries aussi, parce que ça se propage, la violence, l'agressivité, ça se propage. Je pense que je suis complètement d'accord avec lui.
Abdelmalik.
Ouais, totalement. Et puis j'ai tendance à penser aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de, j'ai envie de dire, basiquement, de la folie. Il y a un problème psychiatrique, il y a quelque chose de pas normal, parce que si on parle d'humanité, finalement, il y a quand même quelque chose qui nous lie. Justement, cette humanité nous lie, même dans notre comportement en termes d'émotions, en tout cas. Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui est déréglé. C'est pas juste passer au-delà. Il y a quelque chose de l'ordre de la folie, en fait. Enfin, j'ai ce sentiment-là.
Roger Poldrow, vous écrivez d'ailleurs « L'intolérance, la violence et la guerre viennent du fait que chacun est persuadé que son univers est le seul valable. »
Mais, pour moi, le propre de la tolérance, c'est d'arriver à ce que chacun puisse rester dans son ancrage, dans sa religion. Il ne s'agit pas de dire « abandonne toute croyance » ou bien tout s'équivaut. Il faut que un juif puisse être entièrement juif, un chrétien entièrement chrétien, un musulman entièrement musulman, un bouddhiste entièrement bouddhiste, même un athée entièrement athée. Et je crois qu'ils n'arriveront pas à se mettre d'accord, mais pour coexister...
Il faut qu'ils se tolèrent.
Il faut qu'ils se tolèrent et il faut surtout qu'ils arrivent à ne pas transformer leur désaccord en guerre. Voilà, c'est ça la tolérance. C'est pas de dire nous croyons tous la même chose, c'est pas d'être bisounours et tout le monde gentil, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui nous séparent et qui peuvent être très graves, mais qu'on arrive à coexister en dépit de ces désaccords et de ces séparations.
Abdelmalik.
Je pense profondément que si on parle de religion, on ne peut pas parler de religion seule sans parler de spiritualité.
Ouais.
Ce qui signifie que, évidemment, chacun... toi, tu es habillé de cette manière, moi, je suis habillé de cette manière, mais fondamentalement, à l'intérieur, on est des êtres humains. C'est ça qu'on a en commun.
Alors ça, c'est la tolérance facile. Il explique
non,
très
non,
bien,
non, j'ai
pas le droit.
Très bien,
la
très
tolérance
bien.
De la façon dont vous êtes habillé, etc.
Très, très bien, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le vrai cheminement dans une religion spirituelle, il nous apprend ou il nous donne l'expérience de l'amour. Et l'expérience de l'amour, c'est aussi l'acceptation de l'altérité de l'autre, de dire que finalement, si on croit en cette force supérieure, eh ben on a besoin de cette diversité. Et Dieu, si Dieu a décidé si on croit en Dieu, a décidé qu'il y a des êtres différents, eh ben on doit l'accepter, chérir et aller dans ce sens.
Donc c'est pas le droit.
Oui, bien sûr, la conviction de chacun qui porte sur des choses différentes, elle est tout aussi intense et tout aussi respectable.
Ouais,
voilà,
totalement.
À la condition évidemment qu'elle ne vienne pas de façon totalitaire ou criminelle écraser les autres.
Claire Heunen.
Moi, il me semble absolument nécessaire de faire une vraie place au doute, toujours. Je pense que la certitude est ce qui mène à l'obscurantisme et qu'il faut accepter de douter de soi, de douter de l'autre, ce qui permet précisément de l'entendre et l'écouter, me semble-t-il.
Bah mal.
Moi, je voulais aborder dans le sens d'Abdelmalik. Je pense qu'il y a une très grande différence entre la spiritualité et la religion. Donc, il ne faut pas les mettre ensemble. La spiritualité, pour moi, je pense qu'il faut croire à certaines valeurs qui font que l'être humain peut se prétendre s'appeler être humain. Et ça, ça n'a rien à voir avec la religion.
Grégoire Courtois, libraire français, vous avez lu le petit livre, enfin petit livre, très dense, mais petit par la taille, de Roger Poldrow, La tolérance expliquée à tous.
Ouais, moi j'ai deux petites remarques là-dessus, parce qu'on parlait d'intolérable, justement, c'était vraiment toute l'introduction, mais c'est ce qui sous-tend le livre. Et moi j'ai la sensation d'avoir de l'intolérable à la télévision souvent, et pour moi, c'est devenu complètement tolérable. Il y a aussi des horreurs qui nous sont rendues tolérables par leur multiplication, par le fait qu'on soit matraqué par ces horreurs. Ça, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que c'est pas vraiment présent dans le livre, cette idée que le monde occidental, je parle de gens qui ont la télévision en continu, etc., sont gavés d'images qui, il y a encore 20 ans, 30 ans, étaient absolument intolérables et aujourd'hui passent comme une lettre à la poste.
Oui, mais ça, c'est l'effet d'une forme d'accoutumance à l'horreur qui fait que nous nous indignons à 20h et puis à 21h, on a oublié, on digère et on pense à autre chose. Mais si vous voulez, ça a plus à voir avec l'idée d'une tolérance organique, comme on parle d'un seuil de tolérance ou de la tolérance de votre organisme aux antibiotiques, aux trucs. On finit effectivement, et vous avez raison de le souligner, par devenir indifférent par accoutumance à des choses qui restent et qui sont en fait intolérables.
On le voit d'ailleurs avec le discours politique, avec certains propos politiques qui pouvaient choquer il y a quelques années, qui aujourd'hui sont finalement banalisés. On s'habitue à une parole politique, on s'habitue
formes,
à certaines choses.
Il y a
choses.
Des formes de propos, il y a des formes d'injures, il y a des formes de racisme.
Qu'on ne relève plus aujourd'hui.
Voilà, qui indignaient et qui se banalisent, oui.
On va donner le mot de la fin à un libraire, comme on le fait chaque semaine, avec une carte postale américaine aujourd'hui. Jérémy Laniel, vous êtes au Canada, vous clôturez ce débat sur la tolérance avec, sans transition bien sûr, les événements politiques qui se déroulent en ce moment en Amérique. On reproche à Donald Trump, notamment son absence totale de tolérance. Quelle est la réaction des Québécois à son élection là ?
Ben, en plein lendemain de veille électorale qui va perdurer encore un peu, si vous nous le permettez, Emmanuel, on est à même à se poser quelques questions au Québec, au Canada. On est à la fois à des lieux de cette Amérique et c'est juste à côté, c'est le voisin du Sud. Hein. Alors, on a un homme politicien, néophyte, ouvertement misogyne, xénophobe, chauvin, accusé d'agression et d'harcèlement sexuel, que cet homme ait pu accéder aux clés de la Maison-Blanche et au même moment au règne de la plus grande puissance internationale, ben, ça pose certaines questions, assurément. Et ce résultat questionne l'ouverture d'esprit, oui, la tolérance d'une certaine façon, mais c'est de façon perverse, car on doit se rendre à l'évidence que les médias américains, et pas que, hein, les médias canadiens et un peu partout à travers le globe, ben, on l'a jamais pris au sérieux. Au même moment, on a ignoré avec une condescendance la grande populaire du bassin électoral qu'il convoitait lui-même. Mmh. Et c'est là la grossière erreur. Et cette élection de Donald J. Trump, c'est pas qu'une mauvaise blague, hein, c'est le syndrome d'une grogne occidentale généralisée, trop souvent tue et ignorée.
Bien, merci beaucoup pour cette réaction, Jérémy Laniel. On n'a pas encore entendu beaucoup d'écrivains et d'artistes. On va évidemment les entendre. Hein. Ça va être beaucoup de débats. Abdal Malik, peut-être une réaction à cette élection de Donald Trump.
Bah, c'est le choc, en fait. Et il y a le contre-coup. Quelle alternative on apporte pour faire en sorte que les choses bougent réellement ?
Bah, pas mal. Quelle incidence pour l'Afrique, l'élection de Trump ?
On n'a pas entendu ces candidats parler de l'Afrique. Et c'est dommage parce que pour moi, l'Afrique, c'est un continent qui a son importance dans ce que va devenir le monde dans le futur.
Complètement, oui.
À partir de maintenant, qu'on fasse quand même pression pour que les gens tiennent compte de ce que ce continent a à dire, à s'asseoir sur les tables et de dire son opinion par rapport à la marche du monde.
Merci beaucoup, Bab Amal. Je rappelle le titre de votre nouvel album, The Traveler, qui est sorti donc en physique et puis en numérique maintenant sur les plateformes légales, évidemment, de téléchargement. Roger Paul Droit, merci infiniment d'être venu dans la librairie francophone. Votre livre, La tolérance expliquée à tous, est paru aux éditions du Seuil. Merci Abdal Malik à nouveau. Merci Claire Hunen. Merci. À très bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, coup de pouce à un artiste francophone. Voici le chanteur français Marvin Juno avec un extrait de 5 heures.
Il est 5 heures, Marie s'éveille. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'aiguille à son réveil. Marie n'a pas vraiment dormi depuis la veille. À cette heure-ci, même le jour J, on peut quitter Paris en catimini. Il est trop tôt pour changer d'avis. Marie l'a dit, elle veut changer sa vie.
Ici, Paris, 6h23, Paris, Orly, terminal froid.
Ne pars pas sans moi. Écris-moi de là-bas. Si tu peux, envoie-moi parfois des mots bleus. Mots creux, mensongers, mais heureux. Apprends-moi si là-bas tout est mieux. Écris-moi de là-bas. Si tu peux, envoie-moi parfois des mots bleus, des mots creux, mensongers, mais heureux. Apprends-moi si là où tu vas tout est mieux.
cette heure-ci, elle part en théorie pour un autre pays. À six fuseaux d'ici, les yeux rougis par les phares du taxi.
Marvin Junot, nouvel artiste de la scène pop francophone que vous pouvez retrouver sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Toutes les infos sur l'émission, c'est sur le site internet de votre radio francophone. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Ronan Mahé. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère et Laure Grand-Besançon en France. Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Elput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons donc au Salon du Livre de Montréal en public. Auditeurs québécois, on vous attend nombreux. L'émission est en public. Enregistrement exceptionnel le jeudi. Très bonne semaine à vous. À bientôt. Salut.
Dans quelques instants sur cette antenne, Essilor et Optique 2000 vous proposent des verres adaptés à votre vue.
Plouf plouf, ce sera toi qui gagnera le mois sans tabac au bout de 3. 1, 2, 3.
C'était le message de soutien de Lola en classe de CP à tous les participants à Mois sans tabac. En novembre, on arrête ensemble.
Pour vous y aider, téléchargez gratuitement l'appli Tabac Info Service sur l'App Store et Google Play. Un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Tiens, j'ai revendu ma Mini.
Non, t'es pas sérieux?
Pourquoi?
J'ai trouvé mieux. N'importe quoi.
Ça, c'est pas possible.
Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul.
Ok, ok. T'as hérité?
Non, 295 euros par mois. Mais c'est quelle voiture?
La Mini Shoreditch.
Ah. D'accord.
Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295 euros par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 décembre 2016, sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr.
Avec les opticiens Optique 2000, à chacun sa vue, à chacun son verre Essilor.
Pour voir de près.
Comme de loin.
À l'extérieur.
Comme à l'intérieur.
Confortablement sur tous mes écrans.
En lisant. Ou en conduisant.
Pour bénéficier d'un conseil personnalisé et découvrir les verres Essilor les mieux adaptés à votre vue, rendez-vous chez votre opticien Optique 2000. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Ces produits sont des dispositifs médicaux.
Et la librairie francophone sera rediffusée à 1h du matin avec le bonus créole à suivre comme un bruit qui court. France Inter, il est 16h en métropole.